Bien, aujourd'hui, donc comme je l'ai annoncé au début de notre rencontre, c'est Christ tout et en tous. Et j'avais dit au début de notre rencontre que c'est le thème d'aujourd'hui, et je me suis ravisé, et je me suis remis en question, et j'ai dit, mais non, c'est le thème d'aujourd'hui, mais c'est un thème de tous les jours. Christ est tout et en tous. Quand on est chrétien, quand nous sommes chrétiens, nous devons réaliser que Christ est tout et en tous. Mais au moins dans sa parole, de toute façon, c'est une annonce de l'éternité, quand il aura une nouvelle terre, un nouveau ciel, où Christ sera tout et en tous, d'une manière pratique, réelle. Nous avons commencé par la lecture de quelques passages dans la parole de Dieu, et j'ai lu Colossiens, de la lettre Colossiens, pour moi c'est une lettre divine, complétée par la lettre aux Éphésiens. Ces deux lettres-là, quand on les lit, on a cette vision divine, spirituelle qui nous dépasse de Christ, du devenir de l'Église. Colossiens 1, 18, où il est dit, Christ est la tête du corps de l'Église, la tête de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Oui. Il veut être le tout, le premier. C'est pas quand on veut, non, partout. Tout ce qu'on fait dans notre vie, ce que fait l'Église, il veut être le premier. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 11, il est dit qu'il n'y a ni grec, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ, tout et en tous. La science a fait de sérieux efforts durant ces dernières années pour mettre à la portée de tous et de chacun l'immensité de l'univers. Je ne fais pas référence au café aux pizzas des sciences, Toby, dont il est le responsable à l'IUT. Non. Le monde s'intéresse à l'explication de l'univers. C'est vrai, en ce moment, on s'intéresse à l'explication de l'univers. C'est fascinant. L'être humain s'intéresse à la création, à l'histoire de l'homme, à tous les mystères de la nature. Et cependant, quand on arrive au bout de ces développements scientifiques, on ne peut s'empêcher de soulever une impression d'inachevé. On est toujours au début de quelque chose, on n'arrive jamais à la finalité. Dès qu'on découvre quelque chose, on est en train de chercher la cause ou la conséquence. Dès qu'on arrive aux origines même le plus loin possible, la question se pose toujours, mais quelle en est la cause? En fait, on est devant, je dirais, une impossibilité de trouver la réponse. Et il faut être vraiment égoïste et vraiment prendre la place de Dieu que de dire, je trouverai un jour la réponse. Alors, il y en a qui ont trouvé la réponse, en fait, c'est en tournant rond. Ils ont dit, en fait, la création, c'est ça. Donc, du coup, il n'y a pas de début. Mais même là, c'est une philosophie scientifique, appelons ça comme on veut, mais ce n'est pas mon domaine, mais c'est juste relever ce questionnement. À chaque fois, des questions demeurent. Un vide s'installe que la Bible appelle le néant dans la Genèse. C'est pour cette raison que la Bible commence par la lettre bête, le chiffre 2. Ça, je n'invente rien. Ce sont les rabbins, ces érudits qui nous donnent ce côté, cette explication un peu. Une des explications, ils disent que si la Bible commence par la lettre bête, pas par la lettre A, elle commence par la lettre B, mais pas la A, parce qu'on est incapable de comprendre A ou de connaître A. On peut commencer par B. B, c'est quoi? C'est bête, c'est la deuxième lettre, ça correspond au chiffre 2. Nous ne pouvons comprendre ce qui nous est accessible, c'est ce qu'on appelle la dualité. Par exemple, nous ne pouvons pas. Tout est expliqué par une chose et son contraire. Le jour et la nuit, homme, femme, etc. Oui. Mais en dehors de ça, on est perdu. Et si la Bible commence par la lettre B? Parce que humainement parlant, on ne peut pas répondre. Voilà une réponse déjà à nos scientifiques, ce que j'appelle la science sans conscience. La science est un don de Dieu, mais quand elle perd sa conscience, elle devient, comme certains l'ont dit, ruine de l'âme. Ceci peut paraître présomptueux, mais en tant que croyant, par contre, en tant que croyant, en tant que chrétien, nous croyons sans l'ombre d'un doute posséder la réponse. Nous avons la réponse, nous, en tant que chrétiens. Nous avons la réponse à cette question tant débattue que les scientifiques ne trouvent pas de réponse. Pour nous, il y a une explication. En tant que chrétien, il y a une seule explication. Une explication définitive et concluante. Cette explication se trouve dans une personne. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'origine, le centre éternel de tout ce qui existe. La parole le dit. Tout vient de lui, par lui et pour lui. Il est l'origine de toute chose. Si on vous pose la question en tant que chrétien, quelle est l'origine du monde? C'est Christ. Quel est le cheminement du monde? C'est Christ. Où va le monde? Christ. La Bible nous le dit. Voilà notre réponse en tant que chrétien. Et si nous, nous doutons de cette réalité, et je dis bien le doute est humain, il suffit de revenir au pied de la croix, implorer le pardon du Seigneur, reconnaître notre incapacité intellectuelle à expliquer les choses, et le sang de Christ est là pour nous laver et pour reprendre le chemin. Quelle que soit la profondeur de nos études, de nos recherches, nous ne trouvons pas l'explication de ce monde, même partiel, ni de l'univers, ni de l'homme, de quoi que ce soit. Tant que nous n'aurons pas reconnu la place que Dieu a donnée de toute éternité à Jésus-Christ, et c'est pour ça que tant qu'on ne rencontre pas le Seigneur, nous tournons en rond. Et ce ne sont pas les religions qui donneront la réponse à la soif de notre cœur. Ces paroles si simples des Écritures que nous avons lues, Christ est tout et en tous. Un passage des fois qui passe inaperçu, mais des fois on ne comprend pas, on le met de côté. Christ est tout et en tous. Christ embrasse l'univers tout entier. Christ ne se limite pas à cet être qui est venu il y a 2000 ans, 33, qui a vécu 33 ans. Ça, c'est le fait visible. Mais Christ, c'est plus que ça. Il est tout et en tous. D'éternité en éternité. Christ est l'explication de tout ce qui a été, de tout ce qui est et tout ce qui sera. Christ est. Et quand Dieu il a dit « Je suis celui qui est », c'est cela. Nous savons naturellement que cette lettre aux Colossiens déclare cela dès le chapitre 1er. Dès le chapitre 1er, l'apôtre Paul le dit. Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, nous lisons « Car en lui, en Christ » Oui, c'est la parole qui le dit, je n'invente rien. « Car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses. » Je ne sais pas comment le dire. Quand il dit « toutes les choses », on ne va pas, nous, commencer à sortir des trucs pour dire « pas ça ». Quand il dit « toutes les choses », qui sont dans les cieux, ouais, niveau spirituel et visible, l'invisible, visible, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. S'il n'y a pas de Christ, il n'y a pas d'univers, en fait. Même les incroyants vivent par grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Même ceux qui ne croient pas en lui vivent par grâce, parce que si le Seigneur se retire, il n'y a plus personne. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens, chapitre 1, versets 16 et 17. Je vous invite à lire cette lettre et vous verrez. Ça nous donne le tournis. C'est une déclaration établie clairement que Christ est en tout et en tous. Il est l'explication de la création tout entière. En fait, si l'on pose la question « qu'est-ce que l'univers ?» En fait, la réponse en fait toute simple, si je passe la Bible. Mais c'est Christ. Mais où va-t-on ? C'est Christ. Mais qui es-tu ? Christ. Vous voyez, Christ est partout. C'est notre raison, c'est la raison même de l'existence. C'est même pas question de pour individuellement, pourquoi je vis. En fait, c'est le sens même du monde, de l'univers même. C'est Christ. Il est dommage qu'on réduise seulement Christ à des choses de la vie, faire les règles, dimanche, la réunion de prière mercredi, faire des séminaires. Oui, souvent on réduit Christ à cela, mais Christ est plus que ça. Il est la raison d'être de l'univers. Pourquoi la création existe ? C'est Christ. Vous comprenez pourquoi, à quoi nous sommes appelés en tant qu'Église ? Et si, j'aime bien cette expression, je ne sais pas de qui elle vient, on nous dit que Christ n'est plus de ce monde, mais ses bras, ses jambes, c'est nous. Vous voyez, j'aime bien cette expression. Il n'est plus de ce monde. L'Église est Christ. il est monté au ciel. Donc on peut estimer qu'il est parti. Non, il n'est pas parti. Peut-être, mais c'est l'Église qui est là. Nous sommes Christ en tant qu'Église. C'est une déclaration qui établit clairement que Christ est tout et en tous. Pourquoi toutes choses ont-elles été créées de Christ, par Christ et pour Christ? On peut se poser la question. Pourquoi Dieu, par Christ, a-t-il amené l'univers à l'existence? Pourquoi cet immense système universel qui existe et qui se maintient? Quelle est l'explication du monde? À toutes ces questions, il n'y a qu'une seule réponse. C'est pour Christ, pour que Christ soit tout et en tous. Voilà la réponse. Pour que Christ soit tout et en tous. Et la parole nous le dit. L'intention qui était dans le cœur de Dieu lorsqu'il a créé cet univers, c'était que la création toute entière, alors là, visible, invisible, appelez ça comme vous voulez, devient un jour la manifestation de la gloire et de la suprématie de son Fils Jésus-Christ. Et quand nous pensons que nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés à cela, et le Seigneur prépare son Église depuis une éternité, depuis l'éternité, pour cette rencontre finale, où il y a certains commentateurs prennent le risque, mais il ne faut pas se limiter aux mots qu'ils vont utiliser, ou dire que Christ a pris le risque d'être inachevé en attendant que l'Église vienne l'achever. Je dis entre guillemets. C'est-à-dire que le rôle de l'Église, on ne se rend pas compte. L'Église telle qu'elle se prépare, Dieu l'a préparée pour qu'elle ait rencontré l'Époux, pour que tous d'un seul coup, le tout, voilà, la finalité pour l'éternité. Croyez-vous que le Père va préparer une épouse, ce qu'on appelle l'Église, une épouse qui n'est pas brisée, qui ne se conduit pas bien, qui n'est pas, comme la Bible elle dit, comme qui est fin lin, blanche, etc. Vous croyez qu'en tant que chrétien, je me limite à vivre ma vie tous les jours dans le monde et je fais partie de cette Église pure qui va aller à la rencontre de Christ? Utilisant la logique, ce que vous voulez. Dire oui, c'est un mensonge. Juste cette réalité-là doit nous remettre en question tous les jours dans la repentance pour dire « Père, prépare-moi pour cette rencontre avec ton Fils. Je ne veux pas rater le coche. » Lisez l'Apocalypse, vous verrez comment l'Église est préparée. On ne peut pas se contenter d'être chrétien de dimanche, de la semaine, en parlant comme ça. Je suis dans l'Église, je fais partie, je me parle. C'est des questions qui me parlent aussi tous les jours. Ce seul passage où il est dit « toute chose subsiste par lui », nous dit clairement et sans permettre aucun doute que sans le Seigneur Jésus, l'univers se désintégrerait et tomberait en ruine. C'est une grâce pour l'humanité tout entière, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Si tous les éléments tiennent bien ensemble dans cet univers, s'il n'y a ni désintégration, ni rupture, ni morcellement, ni émiettement, c'est parce que, de par la volonté du Père, par la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus est le centre de tout ce système, de tout cet univers. C'est lui qui le gouverne et c'est lui, le Fils de Dieu, qui explique la création. Voilà la raison de l'existence de la création. Sans Christ, il n'y aurait jamais eu de création. Si Christ est mis de côté, la création perd aussitôt son but et sa raison d'être. Elle n'a plus besoin d'être maintenue. Que Christ soit tout et en tous. C'était la pensée centrale et directrice de Dieu dans la création de l'univers, et ce, dès le premier verset de la Bible, dans la Genèse. Dès l'origine, il y a une perspective pour cet univers. Cette réalité deviendra effective à 100%, si vous voulez, quand elle sera libérée du dernier obstacle. Et c'est quoi ce dernier obstacle? Que la Bible appelle le dernier ennemi, et bien c'est la mort. La mort physique, la mort biologique. Et c'est pour ça cet exemple de ce matin, ce frère orthodoxe qui disait, il était tout heureux de creuser lui-même la tombe, il a dit, je ne veux pas être un poids pour mes frères, et quand on lui dit, mais c'est triste, on ne va pas montrer ses yeux, c'est triste qu'on fait, mais non, quand je serai là, ma naissance, c'est ma naissance, l'éternité commence, c'est beau. Quand il aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux, quand l'univers tout entier sera plein de sa personne, là, encore une fois, on va expérimenter ce que c'est que Christ, tout et en tous. Mais avant d'arriver à cette dernière libération, cette dernière réalité éternelle, ultime, le Seigneur règne dans ce monde à travers qui? À travers l'Église. Et quand je dis Église, je ne parle pas de bâtiment là, le creusot. L'Église avec un grand E, c'est les frères et sœurs qui forment le corps de Christ. Les chrétiens d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est l'Église que le Seigneur utilise dans ce monde pour régner. C'est sa demeure. Christ habite dans l'Église. Quand nous nous retrouvons entre enfants de Dieu le dimanche, comme ce matin, là où le Seigneur est le centre et où nous n'avons tous qu'un seul et même intérêt, le désir et la contemplation du Seigneur Jésus, eh bien, rappelons-nous que nous faisons partie de cette Église. Nous sommes Christ sur terre. Et quand ensuite il nous faut retourner dans le monde, demain, le lundi, qui ne reconnaît pas le Seigneur, dans ce monde qui ne reconnaît pas le Seigneur, ou combien l'atmosphère semblera lourde et pesante, c'est grand et c'est précieux de voir le Seigneur dans son Église, chez les siens, et d'être ainsi rassemblés en lui, malgré tout ce que de telles rencontres peuvent encore avoir d'imparfait. Et souvent des frères et sœurs portent des jugements sur les églises. « Ah, ça, c'est pas bon. Là, ils ne sont pas bien avec moi. Ah, dans cette église-là, le pasteur, telle sœur, tel frère, on porte un jugement sur l'église locale. » Mais ayant une vision d'église comme corps de Christ, et celui qui part, qui juge les autres, il ne faut pas qu'il l'oublie, qu'il est le premier des imparfaits. Voilà le dessein de Dieu. Christ, tout et en tous, annoncé depuis la Genèse. L'univers tout entier sera pour lui, tout sera une expression du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui ne reflètent pas le Seigneur. Jésus dans notre vie et dans la mienne, dans la vie de chacun d'entre nous. Mais le jour vient où je ne verrai en vous que le Seigneur, comme vous, vous ne verrez en moi que le Seigneur. Nous serons tous semblables à lui. Comme dans Romains chapitre 8, verset 29, il est dit, encore l'apôtre Paul nous dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Christ sera tout et en tous. Dieu l'a voulu ainsi, il l'a décidé ainsi. Et ce que Dieu a déterminé, il l'aura. Il n'y a que nous qui changeons d'avis. Notre Créateur ne change pas d'avis. C'est donc là l'explication de la création. Que Christ soit tout et en tous. Et qu'en toute chose, il est la première place. Est-ce qu'il a la première place dans notre vie de tous les jours? Si ma question crée en nous une culpabilisation, eh bien je dis tant mieux. Mais il ne faut pas qu'on se limite à la culpabilisation. La culpabilité nous mène à la repentance. Et la repentance nous mène au pardon. Et le pardon donne l'espérance. Et voilà, nous sommes repartis. Il ne faut pas s'arrêter à la culpabilité. Ça, c'est le diable qui crée cette culpabilité qui mène à la mort. Mais il s'arrête là. Non, si on a une culpabilité, une remise en question intérieure, tant mieux. Mais c'est nous-mêmes à le confesser devant le Seigneur. Tout doit être confessé. Il n'est pas dit ce qu'il faut confesser ou pas. Même ça, il faut le confesser. Et la parole nous dit, le sang du Seigneur est disponible 24 heures sur 24 pour qu'il nous lave. Et hop, nous sommes repartis. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul fait à cet égard une grande déclaration. Dans Romains 8, versets 19 à 23, je lis. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, en fait, c'est comme une gestation pour un accouchement. Il y a une souffrance, je dirais, mais en même temps, cette souffrance est accompagnée de paix et de joie. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance. Oui, l'espérance. Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. On nous parle du devenir. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est comme si la création, elle souffre, elle dit, je veux atteindre la liberté, la libération finale. Oui, c'est ce qui se passe. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Oui, tout le plan mène vers Christ, vers la rédemption, vers l'éternité, vers cette rencontre, après cette rencontre entre l'Église. Et... si le chrétien n'est pas attiré vers ça, ben, il y a quelque chose qui ne va pas, il va tourner en rond. Si notre vie chrétienne, c'est le jour, vivre le jour, c'est... non, il faut qu'il y ait une vocation, une vision. Et cette vision, c'est Christ, tout en tous, l'éternité. C'est cette vision qui doit nous véhiculer. C'est cette vision, ce frère orthodoxe, à plus de 80 ans, il a réalisé. Jusqu'à creuser sa propre tombe, parce qu'il est heureux, parce qu'il dit, oh, c'est la dernière étape, je vais à l'éternité. Est-ce que c'est la nôtre? Peut-être pas jusqu'à ce degré-là. Nous aimons la vie, moi le premier. Mais est-ce que nous sommes véhiculés par cette vision, cette vocation? La fin ultime, le pourquoi de la création, sera caractérisé par deux choses. D'une part, la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens pour l'éternité. D'autre part, l'affranchissement pour la création de l'esclavage et de la corruption. Les deux choses sont liées. Notre raison d'exister, c'est Christ. Et si nous sommes avec et en Christ, nous déboutons notre chemin et nous irons vers l'éternité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par ce moyen seul que la création peut être délivrée. Quand ces fils de Dieu seront manifestés et que tous ceux qui ont refusé ce salut auront été bannis du royaume de Dieu, alors la création sera délivrée et sa destinée sera atteinte. Christ sera tout et en tous. Ensuite, en second lieu, après la création, nous avons l'homme. L'homme, je dirais, qui fait partie de cette création. Je me suis toujours posé la question, pourquoi je suis créé? Qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas demandé à être créé. Si Dieu me punit, ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas demandé à venir. Oui, donc on peut se poser ces questions-là. Comment expliquer l'homme? Comment expliquer Adam, le premier homme? Il y a dans les Écritures un petit passage qui répond à cette question. Oui, il est dit que Adam est la figure de celui qui devait venir. Romains 5, 14. Adam est la figure de celui qui devait venir. C'est-à-dire Christ. Comment Adam le premier peut devenir, être l'image de celui qui doit venir? Adam, une figure, celui qui devait venir. Et la pensée rabbinique nous donne une petite réponse. Ils nous disent que, ben oui, Adam. Qui a donné le nom Adam? Parce que ce n'est pas un prénom, Adam. Ce n'est pas comme on dit Pierre, Jean-Jacques, hein, Adam. Non. D'ailleurs, on ne le dit pas Adam, on dit l'Adam. Si je dois normalement, la traduction normale, c'est l'humain, l'être humain. C'est ça la traduction, si on veut, normalement. Et on dit Adam, Adam. Et bien, même cet l'être humain tel que Dieu l'a désigné, en lui, il y a ce processus. Adam, A-D-M, c'est Abraham, David, qui mène vers le Messie. Voilà le plan de Dieu pour l'humanité. Tout être humain qui vient au monde est destiné. Dieu veut qu'il rencontre sa réalité, c'est-à-dire Christ. Quelle autre vocation? Quel projet pour chacun de nous? Nous sommes appelés à cette réalité. Sommes-nous en phase avec cette réalité de dire que, à titre individuel, le Seigneur m'a appelé en tant qu'Adam, mais pour rencontrer mon Créateur à travers Jésus-Christ? Et s'il m'appelle à rencontrer Jésus-Christ, c'est qu'il veut m'amener de l'état d'enfant spirituel, la nouvelle naissance, vers la maturité spirituelle. Et ce passage de l'un vers l'autre ne peut se faire, ne peut se passer, ne peut se dérouler qu'à travers ce que tu as dit, Didier, les épreuves. Les épreuves font partie de la marche avec le Seigneur. Sans épreuves, nous ne pouvons pas avancer. Sans épreuves, nous ne pourrons pas vivre ce qu'on appelle la rédemption. Sans épreuves, nous resterons dans l'état d'enfant. Et cette épreuve n'est possible que par une réalité vivante. Cette réalité, la Bible l'appelle la croix. La croix du Seigneur permet la réalisation de deux résurrections. C'est cette croix que tant de religions ont essayé de mettre de côté, y compris l'islam, en nous disant que Christ n'est pas passé par la croix. Dieu l'aime tellement qu'il l'a monté directement au ciel sans passer par la croix. Vous voyez la subtilité du mensonge. Tout, on est d'accord sur tout, hein, pas de problème. On peut faire des réunions si vous voulez. Mais juste sur ce point-là, on se met d'accord. Hein. Ne nous dites pas que Christ est passé par la croix. Or, c'est ça, la réalité centrale de la vie chrétienne. La croix du Seigneur permet la réalisation de la résurrection spirituelle. D'accord ? Cette réalité spirituelle vécue sur terre, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu, c'est-à-dire on passe tout de suite dans cette communion avec Dieu, l'Esprit qui nous habite, et aussi la résurrection des corps. Que même, il y a certains courants qui remettent en question. La résurrection des corps, il est bien une réalité. Et le chrétien vivra les deux choses, la résurrection spirituelle et la résurrection des corps. Et le premier qui a rendu cette résurrection des corps possible, c'est le Seigneur lui-même, c'est le premier qui a vécu cette résurrection du corps. Vous voyez, l'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement spirituel, il y a aussi la résurrection du corps. Mais quelle est l'explication de la croix? Comment expliquer le double aspect de cette insondable réalité? D'une part, toute cette œuvre expiatoire et rédemptrice par laquelle le Seigneur Jésus a réglé cette question du péché, prenant sur lui le péché universel, acceptant d'être fait malédiction à notre place. Souvent on dit, il a fait mourir avec lui la malédiction. Mais c'est pire que ça, il est devenu malédiction. Et pourquoi d'autre part cette œuvre subjective par laquelle la croix est implantée dans le cœur du croyant, dans chacun de nous, si bien que par une expérience spirituelle, il devient uni à Christ par la conformité à sa mort. Et ça, c'est par révélation que nous recevons dans notre cœur. Pourquoi cette application de la croix si douloureuse, si terrible, a traversé cette destruction du vieil homme, ce dépouillement de l'être extérieur, cette expérience intérieure de la puissance de la croix, fait en sorte que nous rentrons dans ce cheminement, comme le peuple hébreu, pour aller vers la terre promise, c'est la finalité ultime. Pour que Christ soit tout et en tous, nous sommes brisés. Et si nous remettons en question ce désir de brisement, eh bien, soit nous retardons l'échéance, soit nous vivons comme des chrétiens charnels, voire des fois, nous sommes prêts à aller dans le monde. Pour faire place au Seigneur Jésus, nous sommes amenés jusque dans la poussière par le Saint-Esprit, tel que Job, qui mangeait la poussière, alors que pour lui, il ne méritait rien. Il ne méritait pas ça. Pour que le Seigneur Jésus prenne en nous la place occupée auparavant par la chair, nous interprétons bien mal quelquefois cette application de la croix. Ce n'est pas le fait de se crucifier comme le font pendant la période de Pâques dans certains pays. L'ennemi est toujours là, il rôde avec ses insinuations malfaisantes, nous suggérant la pensée que Dieu est cruel. Il a fait mourir déjà son fils. Que Dieu n'est pas bon, qu'il nous écrase, qu'il nous humilie, qu'il nous anéantit, qu'il nous laisse entendre que nous ne verrons jamais la fin de cette épreuve et fait tout pour nous ébranler. La croix n'a d'autre but que de faire devenir le Seigneur Jésus, tout et en tous. Le chemin par lequel le Seigneur nous fait passer, la manière dont il applique la croix dans notre vie, nous faisant devenir une même plante avec lui, dans sa mort et dans sa résurrection. Il a fait pour nous, il nous appelle à suivre le même chemin. Pas comme nous décidons nous, mais seulement ouvrir notre cœur, lui dire Seigneur, si tu veux que je suive ce chemin, ou plutôt aide-moi à cheminer vers ce chemin de la mort et de la résurrection. C'est par ce chemin, certes étroit, qu'il devient pour nous 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus cher et plus précieux. C'est précisément à cause de ces expériences, ou plutôt, je dirais même grâce à ces expériences qui nous accompagnent, de ces épreuves, qu'il devient notre chemin, notre vérité et notre vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autres issues. Le Seigneur nous dit que si nous ne prenons pas notre croix pour le suivre, nous ne serons pas dignes de lui. Il suffit de lire Matthieu 16, 24, 25. En conclusion, tout ce qui existe, c'est Christ. Christ aussi, c'est le lien entre le début et la fin. Tout ce qui est aboutissement, c'est Christ. Et qui dit création, nous sommes êtres humains dans cette création. Si nous voulons hériter le royaume de Dieu, cette éternité, c'est-à-dire régner avec Christ, faire partie de l'Église, il faut suivre le chemin qu'il a suivi, le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Et ce chemin, c'est le chemin du brisement, c'est-à-dire métamorphose, le laisser nous transformer, nous former, jusqu'à nous puissions faire partie de cette Église. C'est ce que la Bible appelle porter notre croix. Il n'y a pas de cohabitation possible. Comme il le dit Tobie, on ne peut pas être les deux à la fois, tiède. Il n'y a pas de cohabitation possible. La cohabitation, c'est la religion, c'est l'athéisme, c'est le monde. Si la cohabitation était l'objectif de notre Créateur, la croix n'a plus raison d'être. Je termine par la lecture de deux passages dans la Bible. Romains 12, verset 12 d'abord. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Il est question de détresse. Donc ceux qui prêchent le chrétien, tout va bien, ou il doit être riche, il doit être jamais de maladie, jamais d'épreuve, etc. Lisez Romains 12, 12. Voilà. Jacques, la lettre de Jacques, chapitre 1, verset 2 et 4 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ah, ouais. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. D'où la formation, la maturité spirituelle, pour qu'on soit parfait et accompli en Christ, nous devons accepter les épreuves et peut-être passer par les épreuves. Et certainement nous passerons par les épreuves parce que si les épreuves créent en nous une joie, et c'est un accélérateur de notre maturité spirituelle. Et je précise encore une fois, il ne s'agit pas d'épreuves recherchées. Là, c'est une maladie. Je parle des épreuves subies que nous rencontrons dans la vie. Nous les traversons avec le Seigneur en communion avec lui. Il faut que Christ soit tout et en tous. Il faut qu'en toute chose, il tienne en nous la première place. C'est le sens de nos expériences et de nos épreuves. C'est la raison pour laquelle le Seigneur agit à notre égard comme il le fait en tant que chrétien. C'est la raison pour laquelle les croyants passent par les épreuves qu'ils traversent, des épreuves que d'autres ne connaissent pas. Le monde ne connaît pas, certes, les épreuves. Pas tout le monde, mais certains vivent dans la joie et dans la paix. Et où ils sont quelquefois presque tentés d'envier, certains chrétiens sont tentés d'envier les non-convertis, qui ont une vie apparemment plus facile. Le Seigneur sait comment agir avec chacun de nous et il varie ses méthodes. En conséquence, il dirige votre vie d'une manière et la mienne d'une autre manière. Mais le cheminement et la pédagogie est la même. Il sait comment nous conduire d'une manière individuelle à travers nos expériences qui sont toutes calculées pour nous amener d'une manière individuelle et collective à la place où le Seigneur soit tout et en tous. Amen.